a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes au Libre Journal de l'école et nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Pâques. Bonjour Hervé.
Bonjour Florence et joyeuses fêtes de Pâques à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Donc cette émission est animée par Hervé Roland et Florence Leroux. Et Hervé, donc nous allons commencer par les actualités.
Nous allons commencer en rappelant à nos auditeurs que nous sommes, que vous entendez, chers auditeurs, cette émission le lundi de Pâques, mais elle aura été enregistrée quelques jours auparavant, donc pendant la Semaine Sainte. Donc les éventuelles actualités qui se sont passées la semaine dernière, nous n'en tiendrons pas compte, nous en tiendrons compte la prochaine fois. Alors nous commençons par les actualités, comme à l'ordinaire. Et là, je commence par un petit moment de vertige que j'emprunte à Virginie Foncalel, donc enseignante en collège au niveau de 5e. Dans Boulevard Voltaire, la semaine précédente, elle nous raconte une petite histoire. Chers auditeurs, accrochez-vous. Je la cite. « Je suis un peu fatiguée, dit-elle. Notre collège a été choisi pour faire partie des 800 collèges en progrès. Un nouveau gouffre financier imaginé par le ministère de l'Éducation nationale pour faire croire qu'il prend à bras le corps la question de la chute du niveau scolaire. 4 personnes ont donc été recrutées par le rectorat pour s'occuper exclusivement de notre collège. Et ces inspecteurs hantent furieusement les couloirs. Nous aurons même prochainement la venue du DAZEN, je traduis, hein, directeur académique des services de l'Éducation nationale. En 25 ans de carrière, dit-elle, j'avais fini par croire que le DAZEN, c'est un peu comme l'Arlésienne, ça rime d'ailleurs. On en entend parler, mais on ne le voit jamais. Et on se demande quelle est l'action concrète, qui doit être essentielle à la vie de l'école. Car cette fonction est fort bien rémunérée, 65 000 euros de salaire par an, auquel s'ajoute le, je prends ma respiration, RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. L'administration française est merveilleuse. Vous aurez noté que on tient compte des suggestions. C'est un mot un peu ambigu, me semble-t-il. Suggestion à qui? Pour les DAZEN, l'indemnité compte aussi l'IFSE, oui, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, décidément, et le CIA. Pas de service secret américain. Non, le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel. Le tout s'élevant environ à 50 000 euros. Soyez rassurés, c'est imposable. Les DAZEN sont de hauts fonctionnaires nommés par le président de la République. Nous avons donc les inspecteurs qui essayent de nous apprendre comment faire progresser nos élèves, dit-elle. Sujet de, comme si nous ne l'étions jamais demandé. De quoi parlions-nous en salle des profs jusqu'alors? Bonne question. Quels sont donc les fulgurances pédagogiques et les idées novatrices de ces inspecteurs et en quoi consistent leurs interventions? Globalement, à nous dire que nous ne sommes pas vraiment des gens capables, donc des incapables, puisque nous n'arrivons pas à mettre en œuvre le programme concocté avec amour dans les sombres alcôves du ministère. Rappelons-nous, plus d'un tiers des élèves de 6e ne savent pas lire. 41% n'ont pas les bases en mathématiques. Les bases, c'est les 4 opérations. Elle pose la question, d'ailleurs, avez-vous vu récemment un enfant de 12 ans, donc de 5e? J'adore la description. C'est petit, mignon, pas très dégrossi, doté d'une expérience du monde fort réduite et d'une voix fluette. Voici les documents sur lesquels l'inspecteur nous fait réfléchir. Et c'est là où, chers auditeurs, je vous demande de rester assis. Si vous ne le croyez pas, vous trouverez tous ces documents sur le site des ressources de l'Éducation nationale, encore un slogan, EduSchool. Et donc, elle nous apprend, cette enseignante, qu'avec les petites cinquièmes, elle est censée travailler la poésie baroque. Alors, je cite le document officiel de l'Éducation nationale. « La nature versatile que le poète baroque observe autour de lui fait écho à sa propre nature incertaine et changeante. Il comprend qu'il fait partie d'un monde en perpétuelle mutation dont le sens profond lui échappe. » À mon avis, ce sens profond va échapper aux élèves de cinquième. Il sait qu'il n'y a pas de monde plus inconnu que le monde qui l'entoure. La fragilité de la vie et l'inconstance de l'univers interrogent d'une façon nouvelle une nature à la fois proche et lointaine qui devient à elle seule un univers de signes mystérieux. On imagine bien les quelques difficultés à faire comprendre tout cela un enfant de 12 ans qui ne sait pas construire une phrase complexe, hein, est-ce qu'on a besoin de cela au collège? Mais, fait remarquer l'enseignante, l'avantage pour le ministère, c'est qu'on peut imprimer le même texte de la 5e jusqu'à la terminale. Mais il y a aussi la thématique du voyage. Alors là, soyons un tout petit peu plus précis. Et là, je recite le document officiel. C'est à partir de ça qu'on doit faire travailler les élèves. Hein. De 5e. Du voyage imaginaire au voyage dans l'imaginaire. L'aventure est-elle une quête ou une épreuve? L'aventure nous permet-elle de renouer avec l'utopie humaine? Comment le voyage est-il à la fois une quête personnelle du domaine de l'imaginaire et collective du domaine de savoir? Faut-il accepter de se perdre dans le voyage pour goûter à l'aventure? Peut-on raconter son voyage sans le dénaturer? En quoi l'aventurier constitue-t-il une figure ambivalente, porteuse de valeurs paradoxales? Toutes ces questions sont passionnantes, mais quand on a 12 ans, il manque quelques éléments pour y répondre. Mais certains sujets pourraient être directement recyclés pour le bac de philo. Exemple, autre sujet officiel, hein, comment la quête de l'inconnu amène-t-elle à se découvrir soi-même? Beau sujet de philo. Et puis les deux derniers, les deux préférés. Peut-on discerner une géographie intime de l'aventure? En quoi le voyage n'est-il parfois que le commerce des ressources du vivant? Comme dit l'enseignante, cela me laisse aussi perplexe que certaines paroles du groupe Indochine. Alors évidemment, les inspecteurs proposent une bibliographie pour guider les enseignants dans le choix des lectures. Et les suggestions pour des élèves de 5e sont les pensées de Pascal, les essais de Montaigne, le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, Triste Tropique de Lévi-Strauss ou la Germanie de Tacite. Alors là, Hervé Roland ajoute un commentaire personnel dans la bibliographie. Franchement, je suis surpris de ne pas trouver le château de Kafka. Je rappelle que on suit les aventures de K, qui se bat pour entrer en contact avec les autorités du village, qui sont dans un château. Mais les châteaux où résident les fonctionnaires est inaccessible. Fonctionnaire inaccessible, vous m'aurez compris. Et au sortir d'une réunion avec les inspecteurs, la professeure de 5e tombe sur un brave élève de 5e qui claironne. « Wesh madame, je sais pas c'est qui qu'on a après vous !» Là, dit-elle, je suis revenu dans le réel, mais ajoute-t-elle, je comprends que certains de mes collègues vrillent. Première actualité. Deuxième actualité, une curieuse association. On va parler de liberté d'expression, vous savez, avec l'ARCOM, l'organisme chargé de faire respecter la liberté d'expression, le gendarme des médias, présidé par un ami du président Macron, nommé en février 2025, Martin Adjari. L'ARCOM vient de nouer un partenariat assez curieux avec le ministère de l'Éducation nationale. Réjouissons-nous, la France profite désormais, je cite, d'une coopération entre l'école et le régulateur dans le domaine de l'éducation aux médias. Éducation aux médias, ça m'inquiète toujours un peu. Car, document officiel, hein, l'école a un rôle central à jouer pour former des citoyens éclairés, capables de comprendre, d'analyser et de questionner l'information. Écrivent dans un bel ensemble, donc, dans un communiqué de presse, le ministère de l'Éducation nationale et l'ARCOM. Voilà donc une mission de plus pour nos profs qui en manquaient. Les deux organismes étatiques se prétendent lutter contre, je cite, les phénomènes de désinformation, de manipulation et de l'information et de haine en ligne. Tout cela est bel et bon, mais de quoi parle-t-on exactement? C'est pas clair, même si évidemment on devine des arrière-pensées. On découvre parmi les partenaires de l'ARCOM et du ministère le CLEMI. Vous ne savez pas ce qu'est le CLEMI, chers auditeurs. C'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. J'aime beaucoup la notion d'éducation. C'est dirigé par un ancien conseiller de Najat Vallaud-Belkacem, tiens. Alors le CLEMI, c'est quoi? Eh bien, c'est un truc inutile, hein, un machin de plus, coûteux, officiellement neutre évidemment, comme la France sait en produire par milliers, qui pompe 600 000 euros par an sur le budget de l'éducation nationale pour mener des actions absolument indispensables à la performance scolaire des élèves. Rassurez-vous, c'est Nicolas qui paie. Qu'on en juge, une émanation du CLEMI qui s'appelle Zéro Cliché est ainsi en ce moment en train d'organiser un concours, je cite, de la maternelle au lycée, des productions médiatiques, articles, blogs, etc., pour analyser les stéréotypes de genre dans la vie quotidienne. Ah ben voilà. Concours activement soutenu également par France Télévisions. Alors là, ARCOM, ministère de l'Éducation nationale, France Télévisions, toute la famille est là. On sent la neutralité de cet attelage. Ainsi donc, avec le concours du ministère, l'ARCOM met charitablement au service des profs des fiches techniques détaillée, fouillée, pour aborder, je cite, « la représentation de la société française et la lutte contre les discriminations » ou « apprendre comment construire un journal télévisé inclusif ». Inclusif, je pense, inclut les informations, ça doit être ça. À partir du baromètre de la diversité que produit l'ARCOM. Bonne nouvelle, les petits Français ne sauront ni lire, ni écrire, ni compter, mais heureusement, ils détecteront de très loin une discrimination. Et dire que certains continuent de s'étonner du succès des écoles libres. On évite toutes ces bêtises. Alors la question qui se pose évidemment, c'est à quel titre l'ARCOM et l'éducation nationale surveillent-ils la formation des opinions ? Dans, je rappelle, un pays qui c'est une démocratie où les opinions sont théoriquement censées être libres. Donc nous avons désormais deux entités étatiques qui s'occupent de lutter contre l'influence croissante des réseaux sociaux dans la formation des opinions. Mais dites donc, on est un peu dans la contradiction là. Car en France, la presse d'opinion, justement, elle est subventionnée. Pourquoi ? Ben pour son rôle dans la formation des opinions. Donc, l'État subventionne la formation des opinions et l'État surveille la formation des opinions. Je crois que j'ai déjà cité Kafka, je n'insiste pas. Puisque je parle de contradiction, eh bien je vais vous citer le précédent président de l'ARCOM, Roch-Olivier Mestre, qui en 2023 sentait venir la menace de censure, puisque vous avez compris, c'est de cela qu'il s'agit. Et je le cite, « Si la liberté d'expression, c'est d'être uniquement dans le politiquement correct et de déverser à tous le même robinet d'eau tiède, eh bien ça ne va pas. » Voilà une déclaration bienvenue d'un président de l'ARCOM, que son successeur et quelques personnes au ministère de l'Éducation nationale devraient relire. Troisième et dernière actualité, je reviens à l'école. Donc en ce mois de mars dernier, l'Association française des acteurs de l'éducation a consacré le dernier numéro de sa revue trimestrielle au rendez-vous manqué qui jalonne l'histoire du premier degré en France. Première constatation, l'histoire d'un temps scolaire en peau de chagrin. En un siècle, là ils sont remontés loin, de 1894 à 1989, la durée obligatoire de présence des élèves en classe a diminué d'un tiers, passant de 1338 heures à 936 heures et de 223 jours à 180. Depuis 1968, le temps d'enseignement dans le primaire a été écourté de 13%, alors que de nouvelles matières apparaissent dès l'école communale. On commence la langue vivante, l'informatique, voire une langue régionale. On se rappelle l'épopée d'hier, la semaine de 4 jours. En 91, elle est approuvée par la base des parents d'élèves et la grande majorité des conseils d'école. En 2008, Xavier Darcos resserre la durée hebdomadaire à 24 heures, complétée par un soutien de 2 heures aux élèves en difficulté, ultérieurement réduit à 1 heure en 2016. Et en 2013, on débat d'un éventuel retour à 9 demi-journées de classe par semaine, ce qui a été balayé. Et en 2017, Jean-Michel Blanquer, qui en avait assez, décide de laisser le choix aux communes. Vous faites comme vous voulez. En fait, qu'est-ce qui fait la différence entre la France et d'autres pays ? Ben, c'est le nombre et la longueur des vacances. Donc la France se distingue aujourd'hui par l'année scolaire la plus courte, 144 jours pendant 36 semaines, contre une moyenne internationale de 185 jours, 40 jours de plus. Ben oui, vous avez 15 jours en février, 15 jours à Pâques, 15 jours à la Toussaint, 2 mois, etc., même 2 mois et demi. Mais c'est la durée de travail quotidienne la plus élevée, puisque la plupart des pays, l'OCDE, ont un horaire quotidien moyen de 4h30, ce qui est loin d'être le cas pour nos élèves. Il y a moins de jours, ils travaillent beaucoup plus dans la journée, et donc ils sont fatigués. Un jour, peut-être, quelqu'un traitera le sujet, en tout cas, pas le ministère de l'Éducation nationale. Autre constat, et dernier élément qui vient, mais qui évite d'aborder le sujet qui fâche, et le sujet qui fâche, on va arrêter de tourner autour du pot, c'est l'immigration de masse. Le rapport énonce, de manière très neutre, notre école a une spécificité en France, à savoir l'importance des inégalités de réussite liées à l'origine sociale. Non, c'est pas lié à l'origine sociale, c'est lié à l'origine tout court. Petit rappel officiel, 21% des enfants de primaire ne parlent pas français à la maison. C'est donc ça une source d'inégalités terribles, parce que juste ils comprennent pas ce qu'on leur dit. En parlant à la maison que ça va s'améliorer. Donc bravo à tous les maîtres qui font de leur mieux pour combler cette différence handicapante, mais il faut commencer par regarder la réalité en face, ce que évidemment ces acteurs de l'éducation évitent de faire comme d'habitude. Comprenez que les parents derrière n'acceptent pas d'envoyer leurs enfants dans des classes hétérogènes, non pas socialement, mais ethniquement, pour les choses par leur nom. Alors, quelles sont les solutions ? D'abord, pour la concentration d'élèves d'origine étrangère, pas besoin de faire un dessin. Pour ce qui est des rythmes scolaires, diminuer le nombre de jours de vacances est une évidence. Pour ce qui est des budgets, halte aux mensonges. La part de la dépense intérieure d'éducation dans le PIB est de 7%, c'est l'une des plus importantes au monde. Donc ce n'est pas une histoire de budget, allez sur le site de l'Éducation nationale, ça nous coûte 197 milliards d'euros par an, c'est le premier chiffre que vous voyez sur leur site. 197 milliards d'euros. En comptant tout, les dépenses des communes, des collectivités, etc. En revanche, une bien trop grande partie du budget est consacrée à des dépenses administratives. On se rappelle qu'un ministre socialiste, Claude Allègre, avait parlé de dégraisser le mammouth, ce qui lui avait valu l'opprobre de ses camarades de gauche. Rappelons que sur 862 000 enseignants, chiffre officiel, près de 100 000 n'ont aucun élève en phase 2, en excluant les inspecteurs. Qui décidera enfin de limiter le nombre de professeurs sans élèves et de remettre 10 à 20% de ces 100 000, soit 20 000 professeurs, face aux élèves, en particulier pour des postes de soutien? Par ailleurs, il y a la catastrophe démographique que l'on connaît, fait qu'il va falloir réduire le nombre de professeurs, ça aurait l'avantage de mieux les payer et de rendre le métier donc plus attractif. Enfin, supprimons le carcan administratif. Les dépenses administratives du ministère de l'Éducation nationale en France sont de 28% du budget, 13% en Allemagne. J'arrête là.
Merci Hervé.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain.
Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement important qui a eu lieu le 21 mars dernier à la Cité universitaire de Paris. Il y a eu la Convention des écoles libres, un grand moment pour les acteurs de la liberté scolaire, organisée par la Fondation pour l'école. Il y avait plus de 200 personnes réunies, des créateurs, des directeurs, des administrateurs d'écoles. Hervé, peut-être que vous voulez en dire quelques mots ?
D'abord pour remercier tous les participants, les organisateurs aussi. C'était un événement qui était très attendu. On avait l'habitude d'un salon qu'on appelait l'IPSCO de liberté scolaire, qui était un peu pour tous les publics. Et une demande nous avait été faite, elle m'a été faite à la Fondation pour l'école, d'avoir quelque chose plutôt dirigé, c'est le cas de le dire, aux créateurs, aux dirigeants, aux personnes qui ont des responsabilités. Pour un échange, je dirais, un peu de nature un peu différente pendant cette journée, qui se déroulait dans un lieu absolument magnifique, à la Cité universitaire. La France regorge quand même de lieux tout à fait remarquables,
ouais.
et tout simplement très beaux. Et puis par ailleurs, c'est par définition un lieu universitaire. Donc j'ai été particulièrement sensible au fait que de très nombreuses personnes de province ont fait ce déplacement pour venir... c'était pas du tout un événement parisien, c'était un événement vraiment français, et même quelques... personnes de l'étranger qui sont venues.
Luxembourg, Belgique.
Et voilà. Ouais. Et donc, on a pu échanger à un autre niveau, une autre manière que les précédents salons, mais on continuera évidemment alternativement les deux.
Et donc, pour en parler, nous avons trois invités aujourd'hui. Il y aura donc Augustin Yvan, qui est le responsable du pôle développement à la Fondation pour l'école, qui viendra en parler tout à l'heure. Il y aura également Marie-Camille Lagasse, qui est la directrice de l'école lauréate du prix Étincelle. Et puis pour commencer, nous recevons Marie Desneiges Guillotel, qui est la présidente de la FPEEI. Marie Desneiges, est-ce que vous pouvez justement nous dire ce qu'est la FPEEI ?
Oui, tout à fait. La FPEEI représente les parents d'élèves des écoles hors contrat. Plus simple. Ouais. C'est une fédération de parents d'élèves des écoles indépendantes, association de loi 1901, fondée bénévolement par des parents déjà bien impliqués dans leurs écoles hors contrat. À cette heure, nous avons environ 24 000 adhérents pour 130 000 élèves. Ce n'est donc pas encore assez, donc j'en profite pour le dire haut et fort à cette...
On va répéter. Ouais. Chers auditeurs, si vous êtes parents ou vous connaissez des parents d'enfants dans des écoles libres, il faut absolument qu'ils adhèrent à la FPEEI.
Bravo. Donc nous voulons toujours un plus grand nombre de parents adhérents pour peser réellement sur la scène éducative. D'autant plus que j'ajoute que l'adhésion est gratuite.
Ouais.
Donc l'action de notre fédération se résume en deux points. Elle promeut la parole des parents auprès des pouvoirs publics. Nous avons eu, par exemple, des entretiens avec la DGESCO et le ministère du Handicap. Et elle défend également les droits des élèves du hors contrat par rapport à ceux scolarisés dans le sous-contrat public. Donc, j'ai quelques exemples à vous donner pour illustrer certaines injustices que nos écoles et donc élèves peuvent rencontrer. Lors d'inspections abusives, nous avions fait un communiqué qui a été repris comme par des journaux comme Le Figaro. Et cela avait permis l'année suivante que ces inspecteurs ne recommencent pas les mêmes abus commis l'année précédente. Nous avons eu, pour un autre sujet, sur les sujets du pass culture que vous, parents, vous connaissez bien, un signalement d'un parent d'élève qui a son fils ou sa fille lycéen et qui passe la spécialité histoire de l'art. Donc tous les élèves, normalement, ont droit au pass culture de 300 euros quand ils font cette spécialité. Et il s'avère que dans nos écoles hors contrat, ils n'ont que 90 euros. Ce qui est très, très ennuyeux pour les familles, parce que c'est encore un budget important.
Mais c'est une discrimination.
Voilà.
Que fait l'ARCOM ?
Plus de 200 euros à sortir de la poche des parents pour cette spécialité. Voilà, donc nous allons tenter de remédier à cette injustice. Et puis un troisième exemple qui est très important, cela concerne les aides financières de l'État pour les AESH. Donc je rappelle, AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et ces familles se voient retirer cette aide pour rémunérer leur AESH dès lors que l'enfant n'est plus scolarisé dans le sous-contrat public. Donc apparemment, pour l'État, un enfant est porteur de handicap dans le sous-contrat public et dès lors qu'il vient dans le hors-contrat, il semble que son handicap disparaisse tout d'un coup.
Ça, c'est vraiment inacceptable.
Voilà. Donc, en fait, on voit l'enfant par rapport à l'école et non pas par rapport à ce qu'il est lui.
C'est complètement fou.
Voilà. Donc, ça, c'est un de nos combats qui nous tient le plus à cœur. Et c'est pour ça que nous allons continuer de faire entendre les voix des parents qui sont très démunis face à cette injustice. Donc, pour le message que nous avions tenté de transmettre
à la Convention, voilà, donc, aux acteurs de la liberté scolaire.
Voilà. Ouais. Et donc, là, je m'adresse vraiment aux parents. Vous qui m'écoutez, et tous ceux qui étaient à cette convention étaient finalement pour beaucoup parents d'élèves. Donc, c'était en tant que présidente de cette fédération pour les parents que je tenais à leur faire comprendre l'importance de faire adhérer leurs parents d'élèves pour que nous puissions porter le combat auprès des pouvoirs publics.
Et alors, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir touché votre cible ?
Oui, parce que nous avons eu beaucoup d'échanges très fructueux. Alors, sur le coup, c'est très bien, mais ensuite, les directions d'école, les conseils d'administration font beaucoup, mais on leur demande encore une aide pour pouvoir transférer des informations aux parents, et c'est là que c'est important d'en parler sur cette radio, pour que vous, parents, vous puissiez adhérer directement sans que les directeurs, les conseils d'administration prennent encore
en plus,
pour transférer nos messages. Donc là, il faut un véritable... une levée de bouclier, si je puis dire, pour que tous nos parents adhèrent en 3 clics, déjà, c'est très rapide.
Bon, 3,
sur le
ça
site,
va.
Voilà. Ouais. 3 clics et c'est gratuit.
Sur la page de Radio Courtoisie également.
Et par ailleurs, c'est bien évidemment sur la page de Radio Courtoisie.
Oui, très bien.
Donc, l'adhésion est très importante. Vous avez également un sondage que nous avons créé cette année, qui fait justement pour les parents, pour pouvoir... répondre à toutes les questions que nous avons établies dans ce sondage concernant chaque discrimination. Et depuis d'ailleurs que nous avons créé le sondage, nous avons d'autres remontées de discrimination que nous n'avions pas mis sur ce sondage. Donc le but, je reprends toujours mon sujet important sur les AESH, c'est que les parents justement nous fassent part de leurs expériences face aux problèmes d'absence de financement. Par exemple, vous avez aussi également des parents qui n'ont pas de place dans le public parce que l'école n'a pas d'AESH. Et donc, ils arrivent par défaut, en fait, dans les écoles hors contrat. Et là, ils découvrent, avec stupéfaction, parce qu'ils ne sont pas habitués à nos écoles hors contrat, que les aides leur sont supprimées. Voilà, donc pour que nous puissions travailler ardemment pour les parents et leurs droits et les enfants, il faut que les parents nous aident juste en adhérant et en répondant à notre sondage rapidement.
Merci donc avis à la population.
Oui, alors j'ajoute parce que c'est un sujet qui n'est peut-être pas complètement perçu. Là, la notion de fédération de parents a un écho immédiat au ministère de l'Éducation nationale, donc la rue de Grenelle, pour en avoir fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, ça fait partie des réactions à l'époque où Édouard Geffray était encore le DGESCO, c'est-à-dire directeur de l'enseignement scolaire. Il se trouve que je lui ai écrit justement au nom d'une fédération de la FPEI en conjonction. Et là, tout de suite, il m'a appelé sur mon téléphone. Hein, c'est pour oui. vous donner... d'ailleurs, il avait obtenu le... C'est pour, parce que là, fédération de parents égale une forme de pression. Il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, plus il y aura de... Je dirais de familles inscrites, en particulier pour démontrer à quel point ces discriminations sont inacceptables et surtout sont la négation. Il me semble qu'au frontispice de tous nos bâtiments publics, il y a marqué liberté, il y a marqué égalité. Et là, c'est scandaleux, ouais, le passe culture qui a 300 euros pour les uns, 90 euros pour un enfant, c'est un enfant de français. Donc, je suis désolé, là, c'est inacceptable. Et si vous rejoignez l'FPEI, à partir du moment où vous parlez en dizaines de milliers de personnes, croyez-moi, on est très vite entendu. Il ne faut pas laisser ce monopole des criards à qui vous savez. Il faut vraiment l'utiliser et tout de suite, on sera entendu.
Mmh. Oui, merci pour votre engagement, en tout cas, Marie-Déneiges. Et alors, qu'est-ce que cette. Donc, à la Convention des écoles libres, vous défendiez la cause des parents et de la FPEI. Et qu'est-ce que cette journée vous a apporté personnellement ou pour votre réseau?
Alors oui, avant de répondre vraiment à votre question, je tenais quand même à dire que donc, les parents doivent adhérer et répondre au sondage. Et nous, de notre côté, nous avons commencé par cette année par créer un réseau de porte-parole par académie et un réseau d'ambassadeurs par école. Cela nous permet en fait, de relayer les informations de la FPEI par les parents sans devoir passer par les écoles.
Oui.
Donc, les informations sont transmises au porte-parole qui les transmet à l'ambassadeur de l'école. Et donc là, nous sommes en pleine recherche, en campagne de recherche de porte-parole. On a déjà une dizaine de porte-parole dans la France. D'ailleurs, lors de cette convention, nous avons eu la chance d'avoir deux porte-parole qui sont venus de province pour montrer vraiment leur motivation pour défendre leurs écoles et leur académie. Mais voilà, par exemple, nous sommes en train de chercher des porte-paroles pour Créteil, Versailles et Paris. Ah. Et à 7 heures, nous n'en avons toujours pas. Alors, depuis la convention, nous avons des contacts donc fructueux suite aux échanges que nous avons eus. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore eu de véritables réponses. Donc,
Paris, Créteil et Versailles.
Et Versailles, sachant qu'il y a énormément d'écoles hors contrat. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ces trois académies. Voilà. Les parents sont souvent très sollicités. Alors, c'est vrai que s'ils ne peuvent pas aller jusqu'à prendre le rôle de porte-parole, qui peut être tout à fait bien expliqué lorsqu'un parent peut être intéressé par ce rôle, les ambassadeurs ne sont vraiment que des relais très simples via les WhatsApp de groupes de parents WhatsApp ou par mail ou via école directe quand l'école est plus importante. Donc, c'est vraiment un rôle de relais, mais qui est très précieux pour nous. Mmh. Voilà. Et donc cette journée, en effet, pour reprendre votre question, m'a beaucoup apporté dans le sens où j'ai vraiment constaté que tout le monde a travaillé pour le bien commun, dans une atmosphère de grande bienveillance, d'amitié et de recherche de l'aide à apporter aux autres. Donc je pense que c'est une force, et c'est pour ça qu'on avait vraiment fait appel à tous nos directeurs d'école qu'on a croisés, tous ceux qui sont au conseil d'administration, ou même ceux qui travaillent dans d'autres domaines, comme l'aide financière ou autre. Et donc, pour ça, rien que pour ça, ça a été vraiment très fructueux, très enrichissant pour moi.
Et merci Marie-Déneiges. Et quelles sont vos prochaines échéances?
Alors, à court terme, nous souhaitons finaliser d'ici le 31 juillet notre campagne de recherche de porte-parole et d'ambassadeur, car nous avons encore donc, une vingtaine qui manque.
Oui.
Voilà, donc là, je compte sur vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour en parler autour de vous.
Faites passer le message.
Voilà, ou alors vous-même, nous joindre, c'est facile. Vous avez le site, vous pouvez nous joindre par mail, et c'est moi qui vous répondrai. À moyen terme, on souhaite également continuer notre combat pour l'obtention des aides financières pour les AESH. C'est vraiment notre objectif premier de 2026-27. Et donc là, nous allons monter un dossier pour mener cette action juridique. Donc cela, je le répète, mais cela implique d'avoir des parents avec nous qui répondent au sondage sur cette discrimination pour pouvoir se sentir soutenus par nos parents, pour pouvoir aller au front, si je puis dire. Voilà. Et à long terme, et bien évidemment, nous souhaitons la même égalité de traitement pour tous les élèves de France. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Déneiges Guillotel, donc présidente de la FPEEI.
Merci.
Alors, pour continuer sur le thème de la Convention des écoles libres, nous recevons maintenant Augustin Yvan, le responsable du pôle développement à la Fondation pour l'école. Bonjour Augustin.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Bonjour Augustin.
Alors Augustin, en tant qu'organisateur de cet événement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs que vous aviez pour cette Convention des écoles libres ?
Oui, alors effectivement, nous avions souhaité d'abord prendre soin des écoles et particulièrement de leurs dirigeants. Ça, c'était l'objectif numéro un pour cette journée qui a eu lieu le 21 mars dernier à la Cité universitaire à Paris, en face du Parc Montsouris, pour ceux qui connaissent. Le but était vraiment de leur apporter un cadre agréable et ressourçant dans un quotidien qui malheureusement ne l'est pas toujours. Le terrain est parfois âpre. Et donc, notre premier objectif, c'était de faire en sorte qu'il y ait une journée dédiée à leurs problématiques, à leurs besoins, et qu'on puisse vraiment, à leur côté, puisque c'est bien le but de la Fondation pour l'école, leur apporter des réponses et leur donner l'énergie pour continuer l'année en beauté. Ça, c'était le premier objectif.
Oui.
Le deuxième objectif que nous étions fixés, c'était de structurer un écosystème qui est en plein développement, mais qui, du coup, a parfois besoin de canaliser ses énergies, on va dire, puisque les écoles libres ont énormément grossi en termes de nombre. Elles sont aujourd'hui 2100 en France, là où le phénomène était marginal il y a 30 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de nouvelles thématiques apparaissent, de nouveaux partenaires, et nous voulions synthétiser tout cela en une journée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les conférences portées sur les enjeux principaux que rencontrent les acteurs de terrain aujourd'hui. Je pense par exemple à gérer une gestion de crise, accompagner les besoins des enfants à besoins particuliers, communiquer de manière interne à l'école ou externe à l'établissement, ce genre de sujets qui en fait sont un peu le parent pauvre, entre guillemets, dans le sens où quand on construit une école, on commence pas forcément par se dire comment je vais développer la levée de fonds, la gestion de crise ou les parents. On se dit plutôt comment je vais faire pour avoir des bureaux, des élèves et un tableau. Mmh. On n'en est plus à cette phase de pionnier, de début. On en est vraiment à une phase de structuration qui est passionnante. Et c'était vraiment l'enjeu de cette journée, de leur proposer un ensemble à tous ces acteurs, un ensemble d'ateliers et de conférences qui puissent cerner l'ensemble de leurs préoccupations. Et puis des partenaires sur le temps du midi, qui soient des entreprises pour la plupart d'entre elles ou des associations comme la Fédération des parents d'élèves, que je suis très heureux de retrouver aujourd'hui, qui de fait a été très appréciée par les visiteurs. Que ce soit une fédération de parents, que ce soit une aide à la levée de fonds, que ce soit un logiciel de gestion de vie scolaire, que ce soit les bulletins de paye, la foncière pour l'immobilier, enfin je vous les épargne, mais il y avait énormément de partenaires qui répondaient à tous les besoins essentiels des écoles, et les acteurs de terrain avaient deux bonnes heures pour échanger avec eux. Donc ça a été vraiment un moment de structuration, je pense, important. Et puis enfin, le troisième objectif, après le chouchoutage et la structuration, c'est vraiment la mise en réseau, puisque souvent les forces des écoles libres proviennent de leur écosystème et non de l'accompagnement externe. Donc en elles ont des conseils à se donner, des bonnes pratiques à diffuser, et je trouve que le temps autour des enfants à besoins particuliers dans ce sens-là était très utile, parce que c'est une problématique qui concerne de plus en plus d'écoles. Elles ont pu se retrouver, discuter entre elles. On avait donné la parole à trois acteurs de terrain qui étaient une ancienne directrice d'école, un professeur d'une classe spécialisée et une professeure de collège. Et les trois nous expliquaient comment ils adressaient cette question du handicap, comment ils faisaient en sorte de bien la traiter. Et chacun derrière pouvait participer à cette discussion. Donc, cette mise en réseau-là d'écoles qui viennent des quatre coins de la France est facilitée par deux choses. D'une part, par le fait que tous les participants savent à qui ils s'adressent. Est-ce que vous êtes créateur ? Est-ce que vous êtes directeur ? Est-ce que vous êtes administrateur ou professeur ou cadre éducatif ? Donc, ça permet de faciliter la relation. Et puis, avec le fait que nous avions laissé vraiment le temps. Donc c'était un exercice un peu complexe parce qu'il fallait tout mettre et en même temps laisser respirer. Mmh. Mais voilà les trois objectifs que nous espérons avoir remplis auprès de nos participants.
Et donc vous pensez avoir atteint les résultats que vous attendiez ?
Pour l'instant, les premiers retours sont très bons. Bon, y a forcément des choses à corriger, sinon ce ne serait pas rigolo. Mais en tout cas, pour une première édition, les 200 participants avaient l'air vraiment contents. Donc, ça augure bien du succès de la formule, qui, je pense, a trouvé son public. Après, on va pouvoir s'améliorer sur le timing de la journée, sur peut-être préciser notre proposition atelier-conférence, enfin, voilà, les derniers réglages. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a très clairement indiqué qu'il y avait un vrai besoin des écoles, celui de se retrouver une fois par an et pour discuter de ce qu'il y a dans le moteur. Et ça, c'est un besoin qui nous oblige et qui nous pousse à améliorer la formule.
Juste, Hervé, là, le cochon de Radio Courtoisie n'a pas compris le mot timing.
Ah, vous m'excusez auprès du cochon, évidemment, puisque timing n'étant pas dans le dictionnaire. Oui,
On
effectivement,
parlait de
donc
l'agenda, c'est ça?
rythme. Voilà, l'agenda, le rythme de la journée était peut-être encore un peu à affiner.
Alors, vous nous avez parlé de deux temps forts, donc cette rencontre autour des enfants à besoins spécifiques et puis cette heure de déjeuner où les acteurs ont pu rencontrer les partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts que vous voudriez souligner?
J'en vois deux. Pour moi, le premier, c'était vraiment au tout début de la journée, il y a eu une conférence sur les nouveaux services aux côtés des écoles. Et là, trois services ont pu exprimer ce qu'ils proposaient. Qui dépend de l'Académie pour l'école, effectivement, le nouveau nom de l'ILFM, qui s'accompagne aussi d'une offre élargie. En gros, l'idée est la suivante: tous les acteurs de l'école sous toutes les formes. Donc, que vous soyez professeur, directeur, administrateur, que vous cherchiez une formation sur place ou en équipe, ou tout seul, en visio, un samedi, enfin bref, quelles que soient vos modalités, c'est vraiment tous les acteurs, sous toutes les formes et à tous les endroits, pour pouvoir faire en sorte que tous les calendriers puissent y trouver leur bonheur. Ça, c'est pour l'Académie pour l'école, qui garde bien sûr sa formation initiale pour les futurs professeurs, qui est plébiscitée, mais voilà, force de ce développement de la formation, l'ILFM a souhaité marquer ce développement avec un nouveau nom. Il y avait également École Plus, qui est une nouvelle association lancée en partenariat avec la Fondation pour l'école, qui est une association d'aide à la levée de fonds pour que les écoles puissent trouver des sous pour faire baisser leur scolarité, entre autres choses, et puis se développer. Et puis, il y avait la foncière Avenir Éducation, qui est une foncière qui, à l'aide de montage immobilier, permet aux écoles d'acquérir tout ou partie de leur parc immobilier, de changer de locaux, bref, de trouver les locaux adaptés sous forme de plein de, il y a plein de formats différents, comme celui de la SCI, par exemple. Le sujet est complexe, donc je ne vais pas m'aventurer dans les détails, mais on arrive sur des services qui sont hautement professionnels et qui vont permettre aux écoles de sortir du bout de ficelle. Non pas qu'elles y étaient toutes, bien sûr, mais en tout cas, certaines d'entre elles pâtissaient de ça et on est content de pouvoir les aider à en sortir. Et puis, pour terminer sur votre question, évidemment, il y a eu le débat final qui était très attendu entre Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, et Emmanuel Brochier, le doyen de l'IPC, qui a été très intéressant à deux titres. Premièrement, parce que là où le sujet de l'IA était complètement inexistant quant à la question scolaire il y a encore un an et demi,
L'IA,
alors
c'est une copine, là, l'IA, non?
l'IA, exactement, un prénom bien connu de nos auditeurs de Radio Courtoisie. Non, l'IA, bien sûr, l'intelligence artificielle.
Ah, voilà.
Merci, Hervé, pour cette remise dans les rails. Et il s'avérait que le sujet aujourd'hui questionnait de manière profonde, et notamment anthropologiquement, on avait, et c'est le deuxième point, deux visions qui s'affrontaient. Une vision humaniste libérale, on va dire, pour faire court, et progressiste, qui était celle de Luc Ferry, qui, tout en déplorant certains dangers, avait tendance à penser d'abord opportunité, comment investir cet état de fait, en fait, qui s'impose à nous, sans trop chercher à le contester, à lutter contre. Et puis, vous aviez de l'autre côté Emmanuel Brochier, qui avait un discours plus philosophique et qui questionnait notre rapport à la machine et notre réalisation en tant qu'homme face à ce type de questions. Donc c'était très intéressant d'avoir ces deux profils et je pense que ça a vraiment clos la journée en beauté.
Et alors vous, Augustin, vous avez été directeur d'école aussi dans le réseau Espérance Banlieue. Est-ce que vous sentez maintenant qu'un réseau est en train de se structurer pour tous les acteurs de la liberté scolaire?
C'est très intéressant comme question parce que le réseau Espérance Banlieue est un réseau d'écoles, c'est-à-dire que toutes adhèrent de manière formalisée à un ensemble d'une quinzaine d'écoles en l'occurrence. Et donc, l'homogénéité et la dynamique commune est très marquée. A contrario, l'environnement des écoles libres est un environnement beaucoup plus atomisé, puisque par nature, le créateur d'une école libre est indépendant. Il est à la recherche de la liberté scolaire, donc c'est pas pour rien, donc il n'aspire pas à rejoindre un réseau. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait une vraie synergie, même si je ne sais pas si ce mot va être validé par
Hervé. On le garde.
Metro Capello.
Il y avait une vraie synergie qui était liée aux besoins. C'est-à-dire que là où on n'est pas arrivé avec une structure extérieure en disant il faut faire une espèce de éducation nationale bis dont la fondation serait la tête, pas du tout. Simplement, nous, on dit voilà, on est une fondation reconnue d'utilité publique. On est à côté de vous. On respecte votre liberté, mais on vous propose un ensemble de services. Et de ce fait, de facto, les écoles se retrouvent avec une certaine convergence de vues sur les outils à employer, sur l'aspiration pédagogique, sur un ensemble de sujets qui font que, tout en gardant leur liberté, elles formalisent leur rapport. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette approche très réaliste, en fait, beaucoup plus que cette espèce de centralisation jacobine, est très porteuse de fruits. Personne ne se sent agressé, mais il y a un réseau de bonnes pratiques qui se crée. Et je trouve que, à ce titre, le réseau social privé des écoles libres, qui est donc une sphère Waller, pour ceux qui connaissent ce réseau social, montre bien cette aspiration. Et j'espère que cela va continuer dans les années à venir pour que les écoles libres soient une force vive, organisée et féconde au service de la liberté scolaire.
Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter sur cette convention que vous n'auriez pu dire ?
Simplement que j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie que le sujet intéresse de près ou de loin à consulter la page du site internet sur le sujet. Donc, vous pouvez taper Convention des écoles libres ou tout simplement Fondation pour l'école, parce que la convention n'est que la partie émergée d'un iceberg qui est le travail de la fondation au quotidien. Que ce soit sur l'aide à la levée de fonds, sur la mise en réseau, sur le conseil juridique, on propose énormément de choses. Et tout ça, bien sûr, implique du soutien financier, mais aussi du soutien bénévole. Toutes formes de soutien sont les bienvenues. Donc n'hésitez pas, si la question de l'éducation vous intéresse, je pense notamment j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais la Fondation organise beaucoup d'événements, et notamment un colloque qui aura lieu le 4 mai au Palais du Luxembourg, autour de la question que veulent les Français pour l'école. Ça et beaucoup d'autres choses que vous pouvez retrouver sur le site internet fondationpourl'école.org.
Merci beaucoup, Augustin Yvan. Et nous vous retrouvons tout à l'heure pour l'agenda, justement.
Merci, avec Augustin. Plaisir. À tout Merci. À l'heure.
À tout à l'heure.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors Hervé, parmi les moments forts de cette journée, il y a également eu la remise du prix Étincelle. Donc le prix Étincelle, c'est un prix qui récompense depuis 3 ans le partage des bonnes pratiques éducatives. Et donc nous recevons aujourd'hui Marie-Camille Lagasse, qui est donc la directrice du cours Notre-Dame de Toulverne à Vannes, en Bretagne, qui était lauréate du premier prix. Bonjour Marie-Camille.
Bonjour à tous.
Bonjour Marie-Camille.
Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez entendu Augustin juste avant, mais est-ce qu'avant de parler du prix, vous pouvez nous raconter votre journée à la Cité universitaire de samedi dernier ?
Oui, volontiers. J'ai beaucoup apprécié cette journée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre avec d'autres directeurs ou administrateurs qui sont en fait confrontés, je m'en suis rendu compte, aux mêmes problématiques que nous à l'école.
Oui.
Et les temps d'atelier et dans les échanges informels, j'ai pu trouver de nombreuses idées très concrètes.
Alors, donc quel atelier avez-vous suivi en particulier ?
Alors, les ateliers qui m'ont le plus marqué, c'est celui sur la communication interne et externe.
Oui.
Et puis celui sur la prise en charge des enfants à particularité, puisque voilà, nous sommes vraiment dans ce thème à l'école en ce moment. Donc, ce sont deux thèmes qui m'ont beaucoup apporté.
D'accord. Et dans cet atelier sur la communication, quels sont les points que vous avez retenus, par exemple ?
L'importance de d'être en transparence à la fois entre la direction et le conseil d'administration, entre l'école et les parents, et aussi à l'extérieur, avec l'extérieur, pour que mais en fait notre école porte du fruit au-delà de nos élèves, mais aussi pour qu'on puisse trouver facilement des donateurs qui puissent aider à notre mission.
Mmh. Alors revenons au prix Étincelle, avec pour thème cette année la nature et l'école, de l'émerveillement à la connaissance. Et donc les prix ont été remis, il y a eu 5 lauréats, vous étiez donc vous avez reçu le premier prix et nous vous félicitons encore bien chaudement.
Merci.
Donc pour l'école Notre-Dame de Toulverne à Vannes. Le deuxième prix a été reçu par l'école Caminarem dans le Gard. Le troisième prix, je vais me tromper entre la Creuse et la Corrèze, je vais me faire taper sur les doigts, l'école Chrysalis en Corrèze.
On dit en Limousin, vous risquez rien.
Et puis donc il y avait 2 prix coup de cœur, le prix coup de cœur primaire pour l'école Saint-Nicolas de Briennon et pour le coup de cœur secondaire, l'école des Sorgues dans le Vaucluse. Alors Marie-Camille, avant d'échanger avec vous sur ce prix, nous allons écouter un extrait de votre vidéo que les auditeurs pourront retrouver en ligne.
D'accord.
À l'école Notre-Dame de Toulverne, nous avons à cœur de baser les apprentissages sur le concret et le réel. C'est en développant leurs 5 sens que les enfants peuvent mieux comprendre le monde qui les entoure. Saint François fut émerveillé de cette grande quantité d'oiseaux et il dit à ses compagnons qui étaient avec lui « Attendez-moi ici sur la route et moi je vais aller prêcher à mes frères les oiseaux ».
En CE2, depuis le début de l'année, nous avons appris comment et dans quel ordre les êtres vivants sont arrivés sur la Terre. Chez les vertébrés, il y a eu d'abord l'arrivée des poissons, puis des amphibiens, et enfin des... À vous de deviner.
Oui, bravo, on peut applaudir Joseph. Ce sont les réussites. On vous met dans la... Dans le cabinet de curiosité, un livre très intéressant qui s'appelle « La Terre des reptiles ». Est-ce que vous reconnaissez cet animal-là ? Oui. Oui, c'est un caméléon. Caméléon qui change de couleur en fonction de son environnement et en fonction de ses humeurs aussi.
Nous avons monté cette année pour l'école un cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité est une collection assez hétéroclite d'objets qui viennent de la nature principalement.
Attendez-moi.
L'idée n'est pas de faire un musée intimidant pour les élèves, mais au contraire de les pousser à la découverte, de les pousser à l'émerveillement et d'encourager leur curiosité, d'encourager les enfants à aller à l'extérieur, chercher et nous rapporter de belles choses à faire découvrir aux autres.
Voici un bébé crocodile qui a quelques semaines. Il vient de Siem Reap, de la ferme aux crocodiles. Siem Reap est une ville du Cambodge, pays d'Asie. Un crocodile adulte peut mesurer jusqu'à 5,8 mètres.
Notre cabinet de curiosité n'est pas seulement un objet décoratif pour l'école. Nous l'utilisons quotidiennement pour les cours de sciences, également pour les cours de géographie. Nous avons par exemple pu présenter à nos élèves, pour l'étude de l'Océanie, une belle collection de coquillages polynésiens.
En caressant une carapace de tortue, en touchant les défenses d'un sanglier qui sont très aiguisées.
La partie qui est la plus noire, celle-ci, 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 et la partie qui est à l'extérieur de la gencive.
En admirant les coquillages qui sont tous différents et magnifiques.
Sous une table, on a trouvé 4 coquilles Saint-Jacques.
Paola ?
Oui, très bien.
En goûtant les œufs des poules que nous élevons dans l'école. La casserole, super.
Et un peu plus ?
Oh, les
gros. Ah oui. Ah, c'est bon. Super. On en met un peu partout.
Les enfants apprennent à découvrir le réel et la nature qui les entoure. La nature est un merveilleux terrain d'apprentissage pour eux.
L'ours polaire,
Comment il s'appelle le petit bébé de l'ours?
L'ours.
Nous sommes au cœur d'une zone artisanale et pourtant nous avons à cœur de faire venir la nature dans notre école.
Et voilà, vous avez découvert l'école Notre-Dame de Touverne et son rapport à la nature. Le premier pas vers la connaissance, c'est l'émerveillement.
Bonjour. Eh bien, Marie-Camille, cela nous donne envie d'aller découvrir votre cabinet de curiosité. Donc la nature n'est pas toujours au cœur des réflexions de l'école. Pourquoi est-ce essentiel finalement aujourd'hui selon vous et pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à ce prix étincelle sur ce thème?
Eh bien, nous avons trouvé que c'était vraiment un thème très intéressant et particulièrement pour nous qui sommes en ville, dans la ville de Vannes, où nous n'avons malheureusement pas tellement l'opportunité de faire vivre les enfants dans la nature autour de nous. On s'est dit que c'était important parce que on se rend compte que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus connecté, rapide, virtuel, et que le risque, c'est que les enfants, eux, soient de plus en plus déconnectés de la nature et aussi, et c'est encore plus embêtant, de leur propre corps. Or, en fait, avec les formations que nous avons faites, et on le voit sur le terrain, lorsque les savoirs ne sont pas ancrés dans le réel et dans le concret, il ne repose sur aucune base solide et donc tout ce qu'on pensait acquis, finalement, s'effondre à la moindre perturbation. Et en fait, on se rend compte qu'avec la nature, en ancrant tout de manière concrète dans la nature, ça nous offre un fabuleux terrain d'apprentissage et ça donne surtout beaucoup, beaucoup de joie aux enfants. Et ils ont spontanément cette capacité d'émerveillement qui est un très, très bon point de départ pour les apprentissages. Et puis après, une fois que l'émerveillement est enclenché, c'est un cercle vertueux vraiment qui démarre. Après l'émerveillement, les enfants apprennent à décrire les choses de manière très précise. Donc on fait appel à leurs cinq sens qui sont de plus en plus aiguisés. Mmh. Et puis une fois qu'ils ont bien décrit, on peut leur introduire le vocabulaire, du vocabulaire précis, qu'ils retiennent avec fierté et avec bonheur.
Oui, je crois que le jury a été épaté par cela.
Et assez unanime d'ailleurs.
Oui. Et puis après, après ils se posent des questions spontanément, en fait, l'âge du comment et du pourquoi qu'on caricature un peu à l'âge de 3-4 ans, en fait, il dure toute la vie si on sait le maintenir éveillé, justement. Et donc après ce questionnement, la connaissance peut arriver, mais la connaissance est basée sur vraiment quelque chose de concret. Donc ça prend tout son sens. Et puis vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi de se rendre compte que l'homme est le sommet de la création. Et donc, nous avons à prendre soin de toutes les créatures et évidemment en particulier de l'homme. Et donc, en connaissant notre fonctionnement, en connaissant le fonctionnement de toutes les créatures autour de nous, on apprend à les aimer, à en prendre soin. Et ça, c'est important, c'est important pour les générations à venir.
Et tout votre corps professoral est sensible justement à ce sujet de la nature?
Alors, plus ou moins. Ouais. Nous avons des maîtresses moteurs dans ce thème. Et puis d'autres qui s'émerveillent avec les enfants, en fait. qui découvrent avec eux. Mais toute l'école, toutes les maîtresses ont été vraiment investies. Chacune à sa mesure, mais toutes se sont vraiment investies dans ce thème, donc ça c'était super. C'était pas forcément gagné au départ, mais petit à petit elles ont été conquises notamment par le cabinet de curiosité, c'est vrai.
Oui, on sent l'enthousiasme dans la vidéo.
Voilà. Oui, on peut d'ailleurs vous féliciter, là je réfléchissais, c'est une école en ville, donc c'est pas forcément évident, et on peut comprendre que certaines enseignants soient un petit peu sur la réserve, parce que c'est pas le sujet, et c'est tout à votre honneur d'avoir réussi tout ce que vous avez fait. Et là, puisque nous sommes dans une logique de partage de bonnes pratiques, toutes ces écoles publiques, là, à qui, quand on parle de ces questions, de ce que vous avez fait, vous, à Notre-Dame de Touverne, je le rappelle, sans aucun moyen, puisqu'il n'y a pas un centime donné ni par l'État, ni par les collectivités territoriales. Quand je vois tout l'argent qui est dépensé dans les écoles publiques, elles pourraient faire cet effort, y compris les écoles en ville, puisque vous en êtes la meilleure démonstration. C'est possible. Ce serait bien un jour qu'on leur appelle aussi à s'émerveiller à ces pauvres enfants dans certaines écoles. Donc félicitations à vous, parce que c'était loin d'être Et parfois, on nous dit, ben, les écoles hors contrat, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, mais ce n'est pas si simple. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Et vous, y arrivez. Bravo.
Oui, ben, c'est vraiment grâce au concours de toutes les familles. Hein. C'est, chacune a des trésors chez elle, chez les grands-parents, chez les voisins. Et donc, les enfants nous apportent chaque lundi matin vraiment des trésors qu'ils ont trouvés, soit sur le chemin pour venir à l'école ou dans les greniers. Et puis voilà, petit à petit, on arrive à composer un magnifique cabinet de curiosité.
Mmh. Et chaque lundi matin, chaque enfant apporte quelque chose ou c'est chacun
son tour
apporte
En fait, c'est ceux qui ont trouvé des choses. Donc, ils nous préviennent quand même quelques jours avant. L'idéal, c'est une semaine avant. Comme ça, on leur prépare on leur donne la petite fiche. Où qu'ils peuvent compléter pour avoir des pistes de choses à transmettre à l'école. Mmh. Et voilà, ils se basent là-dessus pour présenter leurs merveilles devant leurs camarades. Donc, par exemple, ce matin, nous avons eu trois nouvelles merveilles qui sont arrivées dans le cabinet.
Alors, quelles sont-elles ?
Ah oui, on est très intéressés, là.
On a eu un crâne de vache. C'est un papa qui a trouvé... Alors, la petite fille nous a bien expliqué que c'était interdit. C'était un éleveur qui avait certainement vu mourir sa vache, mais qui l'avait laissée, alors que normalement, on est censé...
Oui, s'en occuper, oui.
Occuper. Et donc, malgré tout, ça a été pour notre plus grande joie, parce que finalement, comme elle s'est décomposée, le crâne est resté. Et donc, le papa a retrouvé ce crâne... Et donc, on a eu tout un petit exposé sur les vaches charolaises, la taille qu'elle peut mesurer, le poids. C'était très intéressant. Ensuite, on a eu un petit garçon de petite section qui nous a rapporté une carapace de crabe qu'il a trouvé sur la plage. Donc voilà, il y a vraiment de tous les niveaux. Hein, mais c'est intéressant, c'est important aussi que chacun, elle était très fière de présenter cette petite carapace devant tout le monde. Et puis, nous avons eu des cornes de gazelle apportées lors d'un... Alors, c'était le grand-père, enfin, un aïeul très, très éloigné d'une famille de l'école qui avait monté le premier parc animalier de France il y a très longtemps. Et ce parc avait dû fermer au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, elle nous racontait l'histoire et chaque... parce que les soldats étant partis à la guerre et puis les familles n'avaient plus les moyens de subvenir aux besoins des animaux, ils ont dû s'en séparer et tous les descendants ont reçu des vestiges et des cornes ayant appartenu... des animaux qui avaient vécu dans ce parc.
Alors Marie-Camille, ce prix arrive à un moment clé pour vous avec votre projet de cours d'école. Il y a une vidéo amusante qui circule depuis peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le prix Étincelle va vous aider ?
Oui, alors c'est sûr que nous habitons en Bretagne, notre école est à Vannes et il pleut beaucoup et notre cours de récréation ressemble une grande partie de l'année à un grand champ de boue. Et c'est vrai que c'est assez désagréable.
Attendez, Marie-Camille, il pleut en Bretagne ? Incroyable.
Oh,
assez souvent, oui. Et donc, nous vivons en bottes une bonne partie de l'année. Et en fait, on ne peut pas profiter vraiment de cet espace extérieur. Depuis 2 mois maintenant, une équipe de parents a lancé une grande levée de fonds pour restaurer cette cour, pour qu'elle soit plus agréable et aussi plus sécurisée pour les enfants. Mmh. Et voilà, du coup, notre prix Étincelle va contribuer à la rénovation de cette cour, mais plus particulièrement pour créer des espaces pédagogiques dans cette cour, des espaces naturels. On pensait à un potager, un espace clos destiné à accueillir des animaux. On a déjà un poulailler, mais on voudrait pouvoir accueillir d'autres petits animaux. Et puis, des petites oasis d'émerveillement, avec des arbustes, des fleurs, des choses qui pourraient continuer à nous faire progresser sur le thème de la nature.
Ah, très chouette. Et bien, donc, justement, vous avez participé aux 3 éditions du prix Étincelle. Quelle fidélité ! qu'est-ce que cette démarche a apporté concrètement à votre école, le fait d'avoir participé 3 fois de suite ?
Alors,
sur des thèmes très différents, d'ailleurs.
Oui, exactement. C'est vrai que notre participation au prix Étincelle, ça nous demande beaucoup de travail, beaucoup de travail en équipe, mais vraiment, ça nous apporte énormément. Ça nous permet très concrètement de nous questionner en équipe pédagogique sur ce qui se fait déjà à l'école et puis sur ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer, pour progresser. Oui. Et ça crée vraiment une belle émulation au sein de l'équipe parce que chaque maîtresse a ses talents et ses domaines de prédilection. Et donc, les thèmes étant très variés, ben en fait, ça permet de valoriser ou de mettre en avant l'une ou l'autre des maîtresses qui peut porter le projet un peu plus précisément. Et justement, ça nous a aussi permis de créer des projets originaux à l'école pour la plus grande voix des élèves. Alors, l'année dernière, on a créé et enregistré un livre audio sur Carlo Acutis, Saint Carlo, qui était notre saint patron. C'était un grand moment pour toute l'école. Et donc, maintenant, on a fait graver le CD et on l'a à l'école. Et on le vend. Donc, c'est vraiment très chouette. Et puis, cette année, le cabinet de curiosité qui est vraiment connu maintenant dans Vannes.
Dans tout Vannes.
Voilà.
Les gens se déplacent pour venir le voir.
Exactement. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment les familles s'impliquent aussi dans la démarche et ça crée une belle cohésion d'école aussi, grâce au prix étincelle et aux thèmes que vous nous proposez qui sont toujours très, très intéressants.
Bon, mais écoutez, merci beaucoup Marie-Camille Lagasse. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice de l'école Notre-Dame de Toulverne à Vannes et que vous avez reçu le premier prix étincelle sur le thème « La nature et l'école, de l'émerveillement à la connaissance ». Et donc nos auditeurs peuvent retrouver votre dossier ainsi que ceux des 12 nominés grâce au lien qu'ils trouveront sur la page internet de l'émission. À bientôt,
merci,
peut-être
Florence.
L'année prochaine, Marie-Camille, pour le prochain prix.
Oui. Et si les auditeurs veulent participer eux aussi à la réflexion, ils n'hésitent pas à contribuer.
Et donc à aller sur les réseaux sociaux pour voir cette petite vidéo très amusante.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie-Camille.
Au revoir, Marie-Camille.
Et joyeuses fêtes de Pâques.
Merci.
Oui,
merci.
Au revoir. Alors Hervé, un autre événement important a eu lieu le week-end du 21 et 22 mars, un autre concours. Oui, la finale de la Coupe d'éloquence de la DRAC. Donc c'est un concours, Hervé, qui met à l'honneur l'art de s'exprimer, de convaincre, de structurer sa pensée pour des jeunes gens, des lycéens. Et donc tout cela à travers la prise de parole, ils ont développé des compétences essentielles, celles de l'argumentation, de la confiance en soi et de l'aisance orale. Et les résultats, alors moi je suis allée à la finale, les résultats sont époustouflants. Chaque finaliste avait une prise de parole de 15 minutes sans notes sur une composition de leur cru qu'ils ont travaillé après avec leur professeur et donc sur un sujet qui est d'actualité pour ce jour de ce lundi de Pâques. Quelles raisons les jeunes d'aujourd'hui ont-ils de défendre l'Église attaquée de toutes parts ? Et donc parmi les 6 lauréats des écoles hors contrat comme Saint-Dominique au Pec et le Puy du Fou, et le premier prix fille revient à une lycéenne de l'école de Châteauneuf de Galaure que nous allons écouter maintenant.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers camarades orateurs, cher public. On m'a chargé, hélas, en ce jour qui finit, de vous annoncer une bien triste nouvelle. L'Église, ce matin, en la ville éternelle, l'Église simplement, sans un mot, sans un cri, harassée sous les coups et refoulant ses larmes, l'Église, ce matin, a déposé les armes. Cardinaux, archevêques, un à un, l'air sérieux, ont remis leurs fonctions et se sont retirés, jugeant que désormais, dans ce monde sans Dieu, cette Église n'avait plus rien à apporter. Le pape, resté seul, fatigué d'une charge dont il ne voyait plus le moindre petit fruit, a beaucoup soupiré dans son aube trop large, puis, laissant sa cathèdre, s'est enfui dans la nuit. Et les quelques fidèles qui tenaient encore bon, défendant de leur mieux la foi des temps anciens, assaillis par le monde jusque dans leur maison, ont fini, eux aussi, par fléchir ce matin. Voilà ce que beaucoup souhaiteraient pouvoir dire, ce que tant de médias aimeraient retransmettre, ce que sur les journaux des hommes voudraient lire, ce que des présidents voudraient pouvoir promettre. Oui, qu'enfin cette Église qui ne sert plus à rien, qui de sa pieuse morale sans cesse nous accable, mais qu'elle disparaisse, qu'elle se taise enfin et qu'on puisse faire sa vie sans se sentir coupable. L'Église gêne aujourd'hui, car elle démontre encore que le bien est possible. Et le cri haut et fort, sans honte, simplement, sans jamais se lasser. Voici ce qu'a dit Bernanos à ce sujet. On persécute l'Église car elle rappelle à l'homme ce qu'il préfère oublier. Et pourtant, a-t-on seulement pensé, ne serait-ce qu'un instant, à tout ce que l'on perd si un jour elle est morte, aux nombreuses richesses qu'avec elle elle emporte, et à ce que le monde regrettera, finalement? Car le monde aujourd'hui semble s'être mis d'accord pour refouler l'Église et la jeter dehors. Pourrait-on dénombrer les articles de journaux recensés aujourd'hui, les clips sur les réseaux qui s'en prennent à l'Église, à ses institutions, ou même au Vatican, son organisation? Et il faut évoquer ce qui est arrivé au moment d'ouvrir les Jeux Olympiques derniers. Cette honteuse parodie, dans un pays pourtant qui se déclare laïque et neutre, par conséquent. Mais les chrétiens eux-mêmes n'ont que droit de se taire, et lorsque les moqueries n'ont sur eux plus d'emprise, alors c'est la violence qui se porte volontaire, alors on les agresse, on s'acharne, on les brise. Au Soudan, les églises sont souillées, bombardées, ou alors occupées par des milices armées. On a fait de ces lieux de prière, des endroits effrayants, étouffés de poussière, assourdis du fracas et des bruits de la guerre et hantés par des ombres qui furtivement y errent. En Corée, les chrétiens sont arrêtés, tués ou alors enfermés, réduits en esclavage dans des camps où ils sont bien souvent torturés, où la faim et la soif et les coups les ravagent. Et même si je ne puis tout détailler ici, ces horreurs se répètent dans bien d'autres pays. Oui, l'Église souffre bien. Oui, de tous les côtés, l'Église est attaquée, on ne peut le nier. Mais si l'on retranchait l'Église de notre monde, beaucoup se sentiraient comme à nu, dépouillés d'un petit bout d'eux-mêmes qu'ils ne sauraient nommer. Car notre société oublie bien facilement les hommes dont elle provient, la terre dont elle descend. Oui, elle a omis de regarder en arrière, de chercher du regard où sont ses origines, saturée du présent, de sa gloire éphémère. Notre société a oublié ses racines. Elle a oublié que la chrétienté aussi a façonné les siècles et même sa propre histoire, est entrée dans sa langue, a développé son art, l'a accompagnée pour en arriver ici. L'Église a fait l'Europe, a dit Victor Hugo. Oui, notre société s'en lave les mains de cette institution, vieille comme Mathusalem, qui se prend pour le bon samaritain et passe son temps à chercher la paille dans l'œil de son voisin. Mais sans elle, notre culture serait bien limitée. Je ne m'étendrai pas ici sur l'héritage, le patrimoine immense qu'elle nous a laissé, car, en étant honnête, tout le monde reconnaît qu'elle a bien largement étoffé notre image. Sans l'Église, les Russes n'auraient pas d'alphabet, l'Union européenne n'aurait pas de drapeau, les notes de musique ne seraient pas nommées, notre calendrier n'aurait pas d'an zéro, sans elle, pas de plafond de la chapelle Sixtine et beaucoup moins de jours chômés sur le planning. Mais oui, il y a une chose que je puis remarquer. C'est que tous nos travaux, nos dernières avancées, ce en quoi nous avons placé tous nos espoirs, ce dont nous pensons faire aujourd'hui, notre gloire, ne s'imposera pas à travers les années comme l'Église, elle, a su y arriver. Et parmi les progrès dont notre âge se vante, dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant, une chose, ô Jésus, en secret m'épouvante, c'est l'écho de ta voix qui va s'affaiblissant. Voilà donc le souci de ce monsieur Hugo. Non, nos plus grandes victoires, non, tout cela n'est rien à côté du savoir qu'elle nous a légué à travers de grands hommes. Tout cela ne pourra remplacer, dérisoire, les confessions de saint Augustin d'Hippone, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, sainte Thérèse d'Avila, son château intérieur, tous ces grands philosophes dont on sait la valeur, mais qui, avant de l'être, étaient d'abord chrétiens. Et tous ces philosophes aujourd'hui renommés, dont la science est toujours si puissamment féconde, n'ont pas craint pour l'Église de s'exposer au monde afin que vous, chers jeunes, puissiez bénéficier de cette vérité. Aujourd'hui, les médias, la société proposent à ces jeunes motivés qui rêvent de grandes choses un modèle bien simple. Oui, voici aujourd'hui ce qui leur est servi. À la place de grandes choses, une petite bière entre amis, et de grands idéaux, juste un petit copain, des études rapides et vite un gagne-pain. Et en fin de journée, on va dans des soirées, qui se finissent d'ailleurs en pleine matinée. On sort, on fait la fête, on s'amuse, on rit bien, on profite de la vie, on ne respecte rien, on voudrait à 20 ans avoir tout essayé, comme si tout d'un coup, tout allait s'arrêter. Mais non, non. Mais enfin, regardez, vous tous, ouvrez les yeux. Que diriez-vous d'un arbre à qui l'on donnerait la lune pour soleil et l'on s'étonnerait qu'il ne grandisse pas, qu'il reste un peu dans l'ombre? Un arbre pour grandir a besoin de lumière, non pas d'une lueur blafarde, presque sombre, mais de celle du soleil, vraiment chaude, franche et claire. Ainsi cet arbrisseau, c'est un jeune d'aujourd'hui. Ce pâle rayon de lune, c'est tout ce qu'on lui sert pour qu'il devienne grand, heureux, épanoui, mais jamais du soleil il ne voit la lumière. Cette lumière que l'Église semble bien détenir quand on voit tous ces jeunes qui l'habitent sourire. Cette lumière n'est rien qu'une exigence de vie. Elle découle simplement de cette vérité, de cette foi qu'ici, ces jeunes y ont trouvée. Vérité qui, bien loin de tous les enchaîner, a su les libérer, comme l'a fait remarquer Alexis de Tocqueville. Le christianisme a su unir la foi et la liberté, et c'est là un de ses plus grands mérites. Peut-être semble-t-il impossible, ou même fou, quand on voit tous ces gens qui la réprouvent, la blâment, de croire que l'Église possède un tel atout. Blaise Pascal, cependant, nous coupe net et s'exclame « L'Église a des ennemis parce qu'elle a la vérité. » Oui, chers jeunes, l'Église préfère être attaquée, blâmée, bafouée, huée, plutôt que vous mentir. Et voici sûrement l'exemple le plus fondé qu'elle seule a su répondre au plus profond désir que nous avons en nous, cette soif de vérité. Ce sont les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Car depuis 40 ans, tous les 2 ou 3 ans, ils rassemblent des jeunes, des milliers, des millions autour de cette église. Et voici justement ce qui est arrivé à l'une de ces réunions. Des milliers de jeunes, venus du monde entier, de toute culture, langue, habitude, de tout lieu, pour rencontrer un homme, pour l'entendre parler et pour le voir prier, cet homme, c'est Jean-Paul II. Déjà âgé, malade, dans son fauteuil roulant, il n'a plus désormais qu'un triste air vieillissant. Pourtant, les jeunes l'écoutent et l'acclament, et l'adulent. C'est alors qu'arrive un journaliste, incrédule, et face à ce vieil homme tellement respecté, à cette génération qui semble tant l'aimer, il harangue les jeunes, les questionne, les provoque. Pourquoi tant de viva pour cette personne âgée? Pourquoi donc croire un homme qui n'est plus qu'une loque, qui seul ne peut même plus ni manger ni marcher? Enfin, ouvrez les yeux! Êtes-vous déraisonnable? Vous êtes jeune, vous avez d'autres choses à faire qu'écouter un vieillard et ses paroles en l'air? Ou alors qu'a-t-il donc de plus que ses semblables? Pourquoi donc tant l'aimer, mettre tous vos espoirs en ses allocutions? Alors un jeune, heurté, s'avance n'hésitant pas et répond hardiment à cette provocation, parce que lui au moins, monsieur, ne nous ment pas. Dans une société qui banalise tout, décide du bien, du mal et a même décrété que la vérité est à la majorité, qui enfin osera prendre la parole et dire à cette génération que la jeunesse est là, non pas pour s'amuser, mais bien pour se construire, que ce temps est précieux et ne se vit qu'une fois, que l'exigence, bien plus que 1000 fêtes éphémères, est ce qui les rendra vraiment heureux et fiers. Oui, je vous le demande, quelles institutions, ministres ou présidents, oseront se lever ainsi contre le courant? Qui, enfin, osera leur dire la vérité si l'Église ne le fait? Et elle le leur dira, car elle veut leur bonheur, mais bien plus que cela, car elle sait leur valeur. Oui, elle les encourage à être lumineux. L'Église croit en vous, leur a dit Jean-Paul II. Mais il ne s'arrête là. Écoutons donc la suite. Chers amis, je vois en vous les sentinelles du matin. Au cours du siècle qui s'achève, des jeunes comme vous étaient appelés dans d'immenses rassemblements pour défendre la haine. Ils étaient envoyés pour se battre les uns contre les autres. Aujourd'hui, vous êtes venus ici pour affirmer que vous n'accepterez pas d'être des instruments de violence ou de destruction, que vous défendrez la paix. Vous ne vous résignerez pas à un monde où d'autres hommes meurent de faim, restent analphabètes ou manquent de travail. Vous défendrez la vie à tous les instants de son développement ici-bas. Vous vous efforcerez de toute votre énergie de rendre cette terre toujours plus habitable pour tous. Oui, voilà, tout est dit. Voilà ce que l'Église donne à la société, sa plus belle entreprise, et d'offrir à tout homme la paix, la dignité, et de rendre l'espérance à ce monde éprouvé. La vraie paix vient de Dieu seul, a dit Blaise Pascal, et pour le confirmer, voici toute autre chose. Le rôle des Églises pour le maintien ou le développement de la paix dans la société internationale contemporaine. Voilà quel est le titre qu'Edmond Blanc a donné à son article dans Politique étrangère, la plus vieille revue concernant ce sujet. Il développe alors les raisons, les lumières, montrant que l'Église est du côté de la paix, que réellement elle peut, dans notre monde armé, apporter une trêve, un peu de réconfort, et couper la parole à la loi du plus fort. Depuis deux millénaires, l'Église, sans se lasser, cherche à rester fidèle à son prince de paix. Mais elle ne s'arrête pas à l'absence de conflits. L'Église va plus loin, car sa paix est aussi une paix intérieure. Car oui, elle est la seule à pouvoir proposer de redonner à l'homme cette tranquillité, ce calme de conscience que l'on ne peut trouver que lorsque l'on se sait entièrement pardonné. Et l'Église s'efforce de permettre à chacun, même au plus misérable, de posséder ce bien, car elle croit que tout homme, quel qu'il soit, le mérite. Voilà la dignité qu'elle voit en chacun d'eux, et voilà le respect auquel elle nous invite. La dignité de l'homme est criée en tout lieu, mais la vit-on vraiment avant de discourir ? L'Église, elle, en effet, commence par agir. Y a-t-il un exemple plus beau et plus poignant de ce respect pour la dignité de tout homme que cette sœur albanaise à genoux sur le sol à soigner les blessures d'un pauvre lépreux mourant ? Au nom de ce Jésus, au nom de cette Église, Mère Teresa a refusé qu'on les méprise. Oui, elle a défendu la vie de tout humain comme veulent le faire la plupart des chrétiens selon ce que l'Église sollicite aujourd'hui, refusant clairement qu'on attente à une vie. Plutôt que d'achever ainsi une existence, l'Église nous ouvre à une toute autre confiance. On nous dit que Pandore avait fermé le pot avant que l'espérance ne puisse s'envoler, mais l'Église, après elle, est venue en secret et a rouvert tout grand le vase aux mille mots et l'espérance, enfin, a pu s'en envoler. Car il est un pouvoir que seule l'Église détient. Celui de redonner l'espérance à ce monde, celui de redonner même aux pires assassins une seconde chance et une paix profonde. Que le monde serait triste si elle ne promettait une vie après la mort où l'on retrouverait heureux et lumineux ceux qui nous ont quittés. Que le monde serait dur si elle n'était là pour nous tendre la main à chaque fois que l'on tombe. Que le monde serait dur si on avait le droit, après chaque rechute à laquelle on succombe, de repartir encore. Alors pour peu que nous l'entendions par hasard, l'Église nous répète qu'il n'est jamais trop tard. L'Église tient bon, solide, l'Église n'est pas morte. Malgré tous les affronts, l'Église encore demeure. Oh, puisque désormais nous savons sa valeur, nous connaissons son prix et tout ce qu'elle apporte, puisque si elle s'éteint, ce sont deux millénaires de notre patrimoine qui s'envolent en poussière. Puisque si elle s'éteint, qui encore osera contre vent et marée désigner les faux pas ? Puisque si elle s'éteint, ce sont tellement de vies qui ne retrouveront nulle part un appui. Puisque si elle s'éteint, c'est la paix intérieure. Puisque si elle s'éteint, c'est l'espérance qui meurt. Mais non, non, cette Église ne chancellera jamais, pourvu que quelques-uns se lèvent en sa faveur, pourvu que quelques jeunes se dressent pour la paix et combattent vaillamment le mal en son honneur. Jeunes, puisque cette lutte n'appartient plus qu'à nous dans ce monde criblé de guerres et de remous. Jeunes, je vous le demande. Ne l'abandonnez pas. Jeunes, je nous le demande. Acceptons ce combat. Répondons à la haine, aux attaques, aux horreurs. Parce qu'il reste encore de joie et de douceur. Je vous remercie.
Alors Hervé, une réaction après cette...
Oui, je suis encore sous le choc de la qualité de ces 15 minutes de cette demoiselle. Rappelons à nos auditeurs de Radio Courtoisie qu'elle parle sans notes. Pour tous ceux qui se désespèrent un petit peu de l'école, et bien là vous avez la preuve qu'il y a encore de quoi espérer en France. C'était tout simplement magnifique.
Merci Hervé. Hervé, pour l'agenda, nous recevons à nouveau Augustin Yvan, qui, je le rappelle, est responsable du pôle développement à la Fondation pour l'école.
Et qui a quelque chose d'important à nous dire.
Oui, Augustin, vous venez à
bonjour
peine
à
de... Rebonjour Augustin. Donc vous venez à peine de clore la convention des écoles libres qu'un nouvel événement se profile à l'horizon. Vous organisez un colloque au Palais du Luxembourg le 4 mai. Pouvez-vous nous en dire plus, Augustin ?
Oui, avec plaisir. Effectivement, on enchaîne les événements parce que l'actualité est très riche et nous sommes à un an maintenant de l'élection présidentielle. Or, les sujets scolaires, malheureusement, ont tendance à passer à la trappe. Et l'une des missions de la Fondation pour l'école, c'est bien, par le biais de son plaidoyer, de valoriser les écoles libres et de les faire apparaître sur la scène publique. Mais au-delà de ça, de pousser les questions d'éducation pour que le politique s'en empare. Et c'est pourquoi nous avons commandité à l'IFOP un sondage. L'intitulé exact de ce sondage, c'est « Que veulent les Français pour l'école ?» pour pouvoir guider la décision des politiques et faire en sorte que les politiques publiques en matière d'éducation soient favorables à de bonnes initiatives, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ce sondage ? C'est un sondage d'une dizaine de questions sur différents sujets, à la fois organisationnels, à la fois pédagogiques et à la fois scolaires ou périscolaires. Par exemple, un exemple de question, ça va concerner la diversification des types d'écoles. Aujourd'hui, l'éducation publique, l'école publique a un modèle d'école précis avec un corpus pédagogique. Et on va interroger les Français sur que pensent-ils du niveau scolaire français du fait de cette espèce de monolithique pédagogique. Est-ce qu'on s'en sortirait mieux si on favorisait la diversification pédagogique ? Un autre exemple de question, ça va être sur les pouvoirs du directeur. Qu'en est-il de la capacité du directeur à recruter son équipe et à la manager ? Est-ce que ça vous semble une bonne idée ou pas ? Puisqu'il faut savoir effectivement que dans la plupart des établissements publics, et même pas dans la plupart mais dans tous, c'est le directeur n'est que en réalité le principal, primus inter pares, mais il n'est pas le chef de ses équipiers. Donc ça pose des questions d'organisation et plus généralement d'autorité et de cap. C'est pour ça qu'on va aussi interroger les Français sur la question de l'autorité et plus généralement de la communication avec les familles. En bref, comment renforcer l'autorité grâce à une bonne cohérence éducative ? Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou défavorable à une meilleure communication, à une augmentation de communication entre les parents et l'école afin de renforcer l'autorité des acteurs éducatifs ? Donc des questions également aussi sur l'IA, qui est le grand sujet du moment.
On rappelle l'IA.
Toujours, oui, merci Hervé. L'IA est effectivement l'intelligence artificielle qui a fait son entrée fracassante dans les universités il y a 2 ans et qui commence à dévier aussi sur le secondaire en entraînant des devoirs à la maison générés par l'intelligence artificielle. Et de manière plus générale, une perte de connaissances et du sens de l'effort également. Donc on souhaite interroger les Français pour savoir où ils en sont par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont plutôt favorables à l'acquisition par l'IA d'un certain nombre d'apprentissages dès le secondaire, donc par l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'au contraire, ils y sont plutôt réticents ? Donc l'idée, c'est vraiment de prendre la température de ce que souhaitent les Français. Un dernier exemple pour clore mon propos, il s'avère qu'aujourd'hui, les écoles hors contrat, donc là on a fait un focus sur les écoles indépendantes n'ont pas la possibilité de faire financer les AESH, c'est-à-dire ces personnes qui accompagnent les enfants handicapés dans l'acquisition de leurs apprentissages. Donc pour l'État aujourd'hui en France, un élève du hors contrat handicapé en fait n'est pas handicapé, quand bien même il n'aurait pas, lui, l'État français, les moyens de scolariser cet enfant. C'est-à-dire que certaines familles sont contraintes de scolariser leur enfant dans le hors-contrat parce que le public n'a plus de place pour elles, mais malgré ça, elles ont la double peine puisqu'elles doivent payer de leur poche l'AESH en question. Donc, on a aussi interrogé les Français sur cette inégalité et l'idée, c'est de permettre aussi aux candidats de la présidentielle d'avoir un baromètre et de savoir comment positionner sa politique éducative ensuite.
Et donc vous le faites en partenariat avec la FPI, avec Marie Desneiges que nous recevions tout à l'heure.
Exactement, l'idée est de pouvoir associer les parents, puisque c'est bien eux qui sont les premiers concernés, et nous sommes très heureux de nous associer à la FPI là-dessus, d'autant que nous organisons pour donner vie à ce sondage un colloque, colloque qui aura lieu donc le 4 mai au Palais du Luxembourg, comme vous l'avez dit. Le 4 mai étant un lundi, ce sera en fin d'après-midi, c'est un format assez court. Et nous aurons la joie d'accueillir M. Fourquet qui nous présentera donc les résultats de ce sondage. Et ensuite, nous proposerons aux inscrits une heure et demie plutôt, de débat autour de des solutions qui se dégagent de ce sondage avec différents acteurs éducatifs. Donc, ça promet d'être passionnant.
Petite et alors, précision logistique. Oui,
voilà, exactement.
Les auditeurs qui souhaiteraient venir.
Alors, pour venir, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, mais en revanche, l'inscription est obligatoire pour accéder aux locaux, de même que la présentation de la carte d'identité. Et donc, vous, sur Internet, vous tapez « Colloque Fondation pour l'école » et vous tomberez sur notre billetterie With Events, billetterie gratuite, je le rappelle. Il ne faut pas traîner puisqu'il y a un nombre limité de places, à peu près 80. Nous avons déjà pas mal d'inscrits, donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus pour rencontrer les membres de la Fondation et de la Fédération, écouter l'analyse de M. Fourquet et participer au débat qui s'en suivra.
Merci beaucoup, Augustin Yvan.
Avec plaisir.
À bientôt. Et Hervé, notre émission se termine. Nous souhaitons donc à tous nos auditeurs de joyeuses fêtes de Pâques, ce lundi de Pâques.
Oui, voilà. Excellente fête pour les jours qui viennent. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver au début du mois de mai.
Très bien. À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer?
Vous venez d'entendre le libre journal de l'école, dirigé par Florence Leroux et Hervé Roland. Émission préenregistrée le 30 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie lundi 6 avril, de midi à 13h30 et réalisée par Jocelyn et Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.